Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Sur Radio Canu, et ce soir, causerie en mode confiné, et puis bah, on a autour du micro, on va dire, Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Bonsoir.
MK.
Bonsoir tout le monde.
À la technique, Lara.
Bonsoir.
Et Jonathan qui nous faisait cette entrée pleine d'énergie.
Tout à fait, pleine d'énergie. Et donc, évidemment, pour causer à la causerie, vous pouvez aussi nous envoyer des messages par mail à lacausericanu@gmail.com, tout attaché, lacausericanu@gmail.com. Et puis aussi, vous pouvez nous laisser des petits messages sur le blog de Radio Canu, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et pour nous écouter tous les dimanches soirs de 22h à 23h. Et donc, pour commencer ce soir, sachant que notre émission est enregistrée vendredi, mais c'est quand même le soir, Jean-Yves va nous parler de...
Eh ben, Jean-Yves, il va vous parler d'une série. En fait, ce soir, j'avais un peu envie de changer de sujet, on voulait pas... Enfin, et puis c'est aussi... Vu qu'on est tous confinés, et toutes confinées, ou en tout cas en partie, ça peut aussi égayer vos journées, ou vos soirées d'ailleurs, ou vos nuits. Enfin bref, donc ce soir j'avais envie de causer d'une série et d'un manga, ou d'un manga et d'une série. Enfin vous l'aurez compris, les deux sont liés. Et donc ce soir, je vais vous parler du manga qui s'appelle « Elle ne rentre pas, celle de mon mari » et de la série « My Husband Won't Fit ». Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est bien qu'il faut savoir quand même que ce manga en fait et cette série sont nés elles-mêmes en fait à la suite de la parution et du succès d'un roman autobiographique de Kodama qui est paru au Japon et en tout cas toujours pas traduit en France. Le roman, il est paru au Japon en 2018 en fait. Et d'ailleurs, le titre, si j'ai tout bien saisi, en fait, le titre original, bah, il serait plutôt le suivant, c'est-à-dire « Le pénis de mon mari ne rentre pas ». Mais bon, sûrement que pénis, ça doit être trop vulgaire ou je sais pas. Donc, on l'a enlevé, hein, quand même.
Ça fait mal d'enlever le pénis. Pardon, excusez-moi, cette blague était très très mauvaise.
Ok. Donc la série en fait elle est réalisée en 2019 et en 2020 le manga lui est traduit en français. Alors pour le moment il faut savoir que le manga il y a que le premier tome qui est traduit en français, c'est aux éditions Le Lézard Noir, et que c'est la mangaka Yukiko Goto qui assure évidemment le dessin, et la traduction est faite par une personne qui bosse pas mal avec les éditions du Lézard et autour du manga. Je peux la citer, hein. C'est Miyako Slocomb. Voilà.
Moi, je voulais juste vous inviter à aller voir ce que font les éditions du Lézard, enfin le Lézard Noir, pardon, parce que c'est vraiment très très bien en termes de traduction de manga autre que grand public pour amener du manga tel qu'il y en a au Japon. Et voilà, allez faire un tour.
Ouais, parce que le manga, ça s'arrête pas à Dragon Ball Z, quoi.
Malheureusement.
Non,
c'est pour.
Alors là, en fait, on arrive au problème, en fait, qui est le mien. C'est de vous donner l'envie de lire le manga, de regarder la série, mais sans trop en dire. Parce qu'en fait, là où le manga, en fait, ne compte qu'un premier tome, la série compte, en fait, 10 épisodes. Donc, vous voyez, il y a un léger déséquilibre entre les deux. Donc, vraiment, l'idée, c'est juste essayer de vous donner un peu l'aperçu de ce que c'est. Et après, vous de vous lancer dans la lecture ou dans le fait de regarder les épisodes.
Ou les deux.
Ou les deux, d'ailleurs. Moi, je fais les deux, en tout cas. Donc, le premier tome du manga, hein, comme le premier épisode de la série, pose, en fait, le cadre des personnages qu'on va suivre.
Juste ce qu'on peut dire, c'est que la série, c'est une série avec des acteurs ou dessiné.
Ah non, oui, c'est une série avec des acteurs.
Parce que souvent,
oui.
Quand on dit manga, les gens s'attendent à avoir un dessin animé, en fait.
Non, je vous les citerai même en fin de sujet. Le teaser de dingue. Je pense que les gens vont rester juste pour ça. Donc ouais, vraiment le premier épisode et le premier tome du manga, c'est quasiment équivalent. En fait, vraiment, c'est vraiment ce cadre qui est posé. Et donc, on remonte, en fait, à 1998, et on découvre, en fait, Sachiko Tori et Shin Kuramoto. Donc, la première, Sachiko, elle débarque, en fait, de la campagne pour aller à l'université, et en fait, elle s'installe dans une résidence, un petit peu pas la résidence de luxe, hein, qu'on s'entende bien. Et le second, donc, lui, habite déjà dans la résidence et il est étudiant en deuxième année. Alors lui, en fait, il casse les codes, en fait. Il débarque dans l'appart de Sachiko, il tape dans le frigo sans gêne, mais pas sans respect. Ouais, c'est vraiment, il fait sa vie et enfin ouais, c'est très particulier. Et ensuite. Un petit peu de temps après, et en fait, il souhaite passer la nuit avec elle. Alors, elle hésite, on comprend bien. Elle a sûrement peur, même si ce mec, en dehors des conventions japonaises, lui fait, je pense, aussi du bien, il la rassure. Et en même temps, il lui dit qu'il ne se passera rien. Elle lui fait confiance, et elle a bien fait, parce qu'il ne s'est absolument rien passé. C'est juste deux amis qui ont partagé une nuit, en fait. Donc, il n'y a absolument rien de... Voilà, il ne s'est absolument rien passé. Ensuite, on suit leur quotidien. Il y a Shin qui accompagne Sachiko dans le manga. Parce que dans la série, ouais, pour complexifier un peu le truc, si vous n'avez pas tout suivi jusque-là, c'est donc dans le manga, c'est Shin qui accompagne Sachiko, et dans la série, c'est Kenichi qui accompagne Kumiko. Voilà, donc il l'accompagne à la découverte des environs de la résidence, là où elle peut faire ses courses. Enfin, vraiment, c'est une découverte de l'environnement même de la résidence. Et ce qui devait arriver arriva, et c'est beau, n'est-ce pas? Ils tombent amoureux, voilà, ils ont envie de faire l'amour aussi, peu de temps après aussi, hein. Sauf que, vous l'aurez compris, hein, vu le titre du manga et de la série, ils vont rencontrer un petit problème, parce que le pénis de Kenichi, il rentre pas. Donc, plusieurs tentatives, plusieurs techniques, mais rien n'y fait, le pénis ne rentre pas. Voilà. Fin du premier tome du manga et du premier épisode. Et vous êtes vachement avancé, non? Et donc, parce que pour pas tout dévoiler, hein, donc pour le reste, en fait, et pour vraiment pas trop vous en dire, mais quand même assez, histoire de vous donner l'envie d'occuper vos soirées et vos journées.
C'est parce qu'en ce moment, on en a besoin.
Ouais, on peut en avoir besoin. Et ben, en fait, cette histoire, en fait, moi, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, parce que je la trouve vraiment hyper intéressante. C'est qu'elle s'interroge, enfin, elle va amener à s'interroger sur pas mal de choses, sur des faits sociaux, sociétaux. Alors, certains sont peut-être plus marqués au Japon, mais je pense que, peut-être à différentes mesures, ça peut aussi se retrouver ici, dans nos contrées. Genre, est-ce que l'amour est-il forcément synonyme de sexe? Peut-on aimer sans sexe? Et est-ce que le sexe est forcément pénétration? Et la famille, est-ce qu'elle est forcément avec enfant? Et sans enfant, est-ce qu'on fait couple ou famille? Oh, peut-être couple, hein, parce que famille, c'est encore moins sûr.
Ou rien.
Ou rien. Le couple, en fait, est-il légitime sans l'approbation de leur famille respective? Et en fait, ça nous mènera aussi plus loin. Enfin, ça va aussi nous permettre d'apercevoir l'école au Japon, la structure sociale, l'enfant qu'on peut dire des fois roi, tout en invisibilisant à fond aussi les souffrances de ses enfants. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Enfin, c'est hyper intéressant. Et aussi le regard sur les gens en marge, si on peut utiliser ce terme-là, entre guillemets, en tout cas. Et finalement aussi, quelle place pour les individus libres, ou qui tentent de l'être, dans une structure hyper hiérarchisée, où l'individu s'efface pour le couple, où le couple s'efface pour la famille, où la famille s'efface un peu pour l'empire. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a tout ce truc-là qu'il faut vraiment, je pense, garder en tête, c'est que le Japon et la France, on ne vit quand même pas dans les mêmes structurations sociales, et c'est vraiment hyper intéressant, en fait. Enfin bref, vous l'aurez compris, hein, évidemment, c'est hyper agréable, hyper surprenant, et alors moi qui ne suis pas un habitué au ciné japonais, et encore moins au manga, ou en tout cas, c'est pas du tout à l'image des mangas que j'ai pu voir, le rythme-là, au début, je l'ai vraiment trouvé très, très, très lent, tant dans le manga que dans la série, mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, je pense que c'est une autre manière d'appréhender le réel. Ça permet de se poser des questions, ça laisse des silences ou des fois juste des bruits. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment. Moi qui suis pas du tout habitué au cinoche japonais, peut-être que d'autres auditeurs, auditrices, ou peut-être même vous parmi l'équipe de la causerie, vous y êtes habitués. Moi, j'ai eu du temps, enfin, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y mettre. Et vraiment, c'est, enfin ouais, c'est, je pense que tout ça, ça apporte aussi quelque chose. Et je crois que Jonathan voulait dire un truc.
Ah oui, parce que justement par rapport au rythme dont tu parles, moi j'aime bien le cinéma asiatique et donc pourquoi pas japonais. Et non, là il y a quelque chose d'assez spécial quand même dans la façon dont le son est posé. Et c'est une série qui a très peu de musique.
Mmh.
On en parlait pendant la prépa, mais moi j'ai trouvé, et encore là en ayant regardé d'autres épisodes, que les bruitages sont assez bien choisis. Enfin voilà, il y a toute une atmosphère aussi qui est maintenue par cette espèce de non-bruit et cet effet de lenteur. Parce que finalement c'est des épisodes de 30 minutes pour la série. Donc c'est plutôt rapide, il y a énormément de choses qui passent en 30 minutes, mais cet effet de lenteur, je pense que c'est aussi, vous voyez, mis par le bruit, par l'ambiance, voilà.
Ouais, mais je suis d'accord, ouais. Et moi qui ai l'habitude, enfin qui regarde souvent du cinéma japonais ou des séries japonaises, c'est ce que j'aime justement dans la création japonaise, c'est cette capacité à ne pas tout dire, contrairement un petit peu aux productions américaines, encore plus que françaises d'ailleurs. En fait, au Japon, on vous raconte pas tout. On vous laisse parfois avec des questionnements, avec des regards, et à vous d'interpréter un peu ce qui est derrière ces regards, derrière ces questionnements. Et la série, pour ça, elle est vraiment très très bien. Et effectivement, les bruitages, moi j'ai été très très surpris. Faut savoir que la série, elle commence sur un coup de frein d'une voiture et un bruitage de coup de frein. Et je trouve qu'en fait, voilà, c'est très intéressant parce que même ça, c'est pensé. Parce que voilà, c'est le truc qui réveille d'un coup. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on part dans la vie de l'héroïne, et c'est vraiment vraiment très intéressant, ouais. Voilà, mais vraiment, ouais, elle est esthétiquement magnifique, quoi.
Mais ouais, alors on pourrait peut-être en reparler après, mais on peut le parler maintenant. Non, parce que je voulais terminer, après je vous présenterai les acteurs vite fait, mais c'est effectivement, je pense que, alors moi en tout cas, je pense que je suis resté un peu sur cette frustration là mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que tu disais dans le cinéma japonais où on te dit pas forcément tout, et effectivement, moi qui suis hyper biberonné à ce qui se fait dans nos contrées, même si je suis pas du tout cinéphile, etc. Mais effectivement, t'arrives dans des situations où t'as pas tout, ou en tout cas, de ton point de vue, il te manque des trucs. Et en même temps, je trouve que c'est hyper intéressant là aussi, parce que ça fige rien et que ça laisse... ça reste ouvert, en fait, à même limite, à peut-être mieux te le réapproprier, vu que tout n'est pas dit. Il y a peut-être des tranches de choses qui t'appartiennent plus vite, en fait. Enfin bref, c'est hyper surprenant et très bon. Hein. On n'est pas là pour la descendre, la série. Vraiment, moi, j'adore.
Et clairement, pour que ça marche, il faut des bons acteurs et actrices. Ouais. Et qui sont ces gens?
Mais qui sont donc ces gens? Eh ben, pour la série, donc, bah oui, pour la série, c'est logique. Dans le manga, il n'y a pas d'acteur. Donc, dans le rôle de Kumiko, on a Natsumi Ishibashi. elle est excellente et d'une jeune femme qui arrive de sa campagne où vraiment, enfin, je trouve qu'elle a des traits un peu pas fermés, mais un peu plus fermés, ouais, enfin. Et je trouve que plus les épisodes avancent et plus elle s'ouvre et plus elle est rayonnante, je trouve. Enfin, enfin, c'est génial, quoi. Et là aussi, des fois, avec très peu de choses, il y a plein de choses qui se dégagent, quoi. Avec très peu de mots, plein de choses se dégagent. Et, dans le rôle de Kenichi, eh ben, c'est Aoi Nakamura. Rien à voir avec Aya Nakamura. Je voulais la faire, c'était sûr. Donc, pardon. Donc, non, je recite, c'est Aoi Nakamura. Donc, et vraiment, enfin, là aussi, très touchant, très, enfin, vraiment, c'est très, très bon. Et ça interroge vraiment plein de choses. Voilà.
Lui, il a l'avantage, enfin, moi, je trouve, alors, je vais d'abord parler de lui pour moi. Il a l'avantage d'être un japonais atypique. Mais il est atypique dans son personnage. Mais il est aussi physiquement atypique pour un japonais parce que voilà il est pas dans la, mais c'est volontaire hein, dans la série, il est pas dans les codes du Japon, c'est-à-dire qu'il est très volubile, il bouge beaucoup les bras, il touche les gens, enfin il fait des choses que normalement on ne fait pas. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'il est toujours en marge, comme tu disais, de la société japonaise. Au départ, il se conforme pas aux codes, alors qu'elle au départ dans son rôle, elle est extrêmement codifiée. Elle respecte les codes qu'elle a appris à la campagne de la femme japonaise en retrait, qui va. Et c'est très intéressant la confrontation des deux. Et comme les acteurs, l'actrice et l'acteur sont excellents, bah en fait ils vont s'apporter l'un l'autre. Elle va un peu le calmer et lui va un peu lui apprendre à être elle-même en fait. Et c'est assez, je trouve ça vachement chouette, quoi. Vraiment.
Ouais. John, Nathan.
Justement aussi par rapport à ça, il y a un petit truc qui m'a marqué. Donc, les deux personnages font des études pour travailler dans l'éducation.
Oui.
Devenir enseignante, enfin, professeur, il devient professeur et elle devient enseignante en primaire. Et ils partagent beaucoup, je vous dévoile pas tout, mais ils partagent beaucoup aussi sur leur méthode, sur ce qui se passe dans ces environnements-là. Sur les rapports sociaux entre les gens. Et aussi sur eux, leur rapport avec leurs collègues. Et, j'ai pas envie de tout spoiler, comme on dit. Hein. Mais, Il y a un truc vraiment très très intéressant dans la façon dont ils vont s'impliquer chacun à leur manière dans la vie professionnelle de l'autre. Soit en donnant des conseils, soit en essayant de compenser. Bon, après ça, je vous laisse découvrir. Mais il y a en tout cas vraiment cette question de, ouais, ben, justement, je vais t'apprendre, enfin, tu parlais de non-conventionnalité, de la part, mais des deux. Finalement, oui. dans une certaine mesure, ils sont en constant décalage avec le monde qui les entoure. Et c'est pour ça qu'ils en parlent.
Non, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que ça rejoint aussi pour moi, oui, parce que vous aurez compris qu'on a été plusieurs à regarder la série.
Dont une qui ne dit rien.
Je vois pas de qui tu parles.
Oui, non, bah, MK. Mais justement, MK, non, tu n'es pas une.
Et en fait.
Je suis non-genré, désolé.
Et en fait, ce qui est intéressant pour moi dans la série, c'est aussi que tout est abordé comme ça, y compris la sexualité. Elle s'aborde beaucoup par le dialogue, alors qu'il soit un dialogue interne, c'est-à-dire des réflexions personnelles, qu'un dialogue entre eux, que des dialogues avec des personnages aussi extérieurs à leur couple, avec justement des fois un côté onirique qui vient se mettre au milieu de tout ça et qui est hyper intéressant. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé qu'ils abordaient très bien les choses. Après, très clairement, la série, elle ne répond pas à toutes les questions qu'elle pose. Et ça, je pense que c'est volontaire. Elle est très phallocentrée, mais comme peut l'être la sexualité japonaise en réalité. Et que du coup, bah, il faut aussi accepter cette idée-là. Et comme l'est d'ailleurs la sexualité occidentale aussi. Ouais. Mais là, je disais ça parce que c'est une série japonaise. Et que voilà. Et que finalement, bah, ils avancent aussi avec ces codes-là et qu'ils essayent de faire avec. Mais moi, je l'ai trouvée intéressante et donc après avoir vu la série, j'avais cherché un petit peu le succès qu'avait eu le livre et ce qu'il avait entraîné. Au Japon, en fait, il a entraîné une vague de ce qu'ils appellent le porn féminisme. J'aime beaucoup. Ça, c'est les conservateurs qui appellent ça comme ça parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que les féministes japonais se définissent, mais justement de la libération de la sexualité féminine. Et du coup, c'est plutôt intéressant de voir que il y a des retombées y compris de tout ça. Ouais,
du coup, moi, j'avais une question. Alors, donc là, visiblement, on a un couple de la vie actuelle, hein, c'est moderne entre guillemets, contemporain. J'allais poser. En fait, la question, c'était ceux qui l'ont vu. Est-ce que c'est on est un peu dans la fiction ou pas? Parce que on est tous d'accord que la sexualité au Japon, elle est quand même bon d'après d'après ce qu'on peut voir, effectivement, c'est pas une sexualité qui est très débridée. Il y a quand même quelques le sexe est quand même très tabou au Japon. Beaucoup de difficultés pour les couples de se mettre en couple justement. Et du coup, c'est pour ça ma question. Est-ce qu'on est alors je parle pas de fiction dans le science-fiction, mais on est quand même plus terre à terre dans la réalité. Alors, quelque chose de probable.
Alors il y a Jonathan qui veut répondre. Ouais.
Ben ouais, parce que en fait c'est tiré de l'histoire de la romancière, hein, donc ouais. À la base, donc c'est une histoire vraie. Mais autant la sexualité qui est évoquée est non conventionnelle, je trouve, parce que déjà elle veut pas rentrer, donc on évite le coït, donc déjà on part dans le débat, voilà. Et puis c'est pas imagé comme peut l'être le porno japonais, si ça répond à ta question. C'est-à-dire qu'il y a une grosse culture de l'imagerie sexuelle débridée et qui compense quelque part une société un peu plus pudique. Et là, non, c'est pas forcément mis en valeur. Par contre, le rapport à la pornographie, à la prostitution, etc., ils en parlent. Mais oui, c'est très réaliste au final, sans être conventionnel. Sans être un truc du vu tous les jours. Enfin, je sais pas comment dire.
Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, je pense qu'après, il y a quelques... Enfin, je pense qu'il y a des ajouts sûrement dans la réalisation, mais je pense vraiment... je pense vraiment que ça peut parler aux gens. Enfin, je pense qu'il y a rien d'irréel, en fait, je trouve. Il y a rien d'irréel, en fait. Des problématiques sexuelles, tous les couples peuvent en avoir. Et après, c'est en discuter qui devient finalement la clé, quoi. Et MK, je te conseille vivement de la regarder. Ça peut peut-être t'intéresser.
Et finalement, finalement, c'est ce qu'ils disent un peu en filigrane de tout ça, c'est que dans une société où on parle très peu de soi, le fait de parler de soi te libère. Voilà. Et je trouve que c'est un beau message. Mais c'est valable ici aussi, hein.
Oh oui. Donc vite fait, avant que je m'arrête quand même, parce qu'il est temps, je rappelle le titre du manga, c'est donc « Elle ne rentre pas, celle de mon mari ». C'est aux éditions Le Lézard Noir, et le tome 2 devrait arriver en juin. Youpi. Et la série, donc je la rappelle, vous trouvez sur Internet, je fais confiance aux gens. Ça s'appelle donc « My Husband Won't Fit ». Voilà. Et ben.
Et regardez-la en japonais.
Avec les sous-titrages, évidemment.
Et ben ensuite, sauf si tu connais le japonais parfaitement.
Mais bien évidemment, mais ce n'est pas mon cas. On se fait une petite coupure musicale et on retrouve tout de suite.
Je vous propose d'aborder une interrogation à la fois d'une grande actualité, mais aussi une interrogation quasiment éternelle. Celle du silence de Dieu.
Le vice invite dynamite et mon esprit naïf. J'imaginais bien mal les pyramides de linge sale. Mais si je patine, je me plains pas, ça vient de moi. Je suis qu'un fils ingrat qui s'active. Que quand il arrive en fin de droit, avec la cicatrice sur ma tronche aigrie. Certains matent comme si la vie m'avait planté ses talons aiguilles. Mais non, la cité de belle font à cette belle maison. J'ai reçu de l'affection ainsi qu'une bonne éducation. J'insiste car c'est des zéros. Les branleurs premières qui se gavent de Rocher Ferrero. Et jouent les mangeurs de pierre. Dis, je croyais que j'avais foi. En rien, mais je vois les astres et leurs lueurs nous laissant plus seuls que des clochards sans chien. On tente de se contenter d'être quasiment heureux. Moi je suis rentré dans le rap par accident sous influence de bœufs. Je me réfugie dans ce jeu gris en tant que des dirigeants dangereux font hurler leur puissance de feu dans le silence de Dieu.
Du lundi au samedi, à peu des dimanches pluvieux. On boira jusqu'à l'aube, le diable nous a dit. J'ai fixé le soleil, vécu ma vie dans le feu. J'ai pas autant de glorie, j'entends que le silence de Dieu. Du lundi au samedi, à peu des dimanches pluvieux.
Écrit celui que j'avais trouvé. Trouver le plafond, c'est pathétique, je veux plus aller où t'es. Refuser assez, je veux t'appeler, le numéro est faux. Les kiss d'Espagne, je dois encore enfiler le gilet jaune. Plus facile de compter les ombres, on écrase des lucioles. Et on m'a dit d'aller plus haut, pour l'instant je les supporte. Écris les textes quand la méduse dort. Marie sait pas que c'est du sport, qu'on a dû se coller pour assurer le sort. Je veux plus suivre le côté obscur là, je suis en train de couler au final. Et j'arrive plus à distinguer le haut du bas. Mais je te promets, j'ai quoi faire au plus marre, même si c'est le chaos sous le crâne. Et que le daron ne comprend aucune phase. une blague et je vais pas rigoler, je connais déjà la fin. Je dirais que je suis un des seuls à freiner le vent. Putain de test indécent, maintenant j'ai intérêt de serrer les dents.
Du lundi au samedi, y'a que des dimanches plus vieux. On boira jusqu'à l'aube, le diable nous a dit. J'ai fixé le soleil, vécu ma vie dans le feu. J'ai pas autant de l'oreille, n'entends que le silence de Dieu. Du lundi au samedi, y'a que des dimanches plus vieux. On boira jusqu'à l'aube, le diable nous a dit. J'ai fixé le soleil, vécu ma vie dans le feu. J'ai pas autant de l'oreille, n'entends que le silence de Dieu.
Ici les corbeaux volent au sol,
les colonnes dans le monopole,
les molosses te chopent au col, tu sors,
prends du protocole.
Troupeau de clopeurs, continuez vos prières monotones,
qui bloquent aux portes d'un créateur privé de son automne.
Aux aurores,
la lumière frappe, les visages sont marqués. À l'autre bout du monde, le marchand de sable se fait bombarder.
Sombre à souhait, c'est l'argent sale qui nous a condamnés.
C'est lamentable et pas rentable, on fuit vers des miracles.
L'ordinaire est minable, horrifié mais il l'a. Nos petits frères des vimales,
tout ce qui se perd est vital.
On disperse l'héritage,
tout ce qu'on désire c'est le nirvana. Le privilège réduit.
On prend nos libertés que des policières sexy.
Du lundi au samedi, y'a que des dimanches plus vieux. On boira jusqu'à l'aube, le diable nous a dit. J'ai fixé le soleil, vécu ma vie dans le feu. J'ai pas autant de l'oreille, j'entends que le silence de Dieu. Du lundi au samedi, y'a que des dimanches plus vieux. On boira jusqu'à l'aube, le diable nous a dit. J'ai fixé le soleil, vécu ma vie dans le feu. J'ai pas autant de l'oreille, j'entends que le silence de Dieu.
Ça c'est la souffrance et la mort. Ou même de nos douleurs minuscules, Dieu aussi.
Et vous êtes de retour dans la causerie avec ce formidable titre des Drudge Brigade, avec le titre Le silence des dieux. Voilà, et je passe enfin le micro, parce que j'ai tenu longtemps, à Fab qui va nous causer, d'une série aussi.
Oui, pour changer un peu, moi j'avais envie de vous parler d'une série, mais pas que. Parce que bon, je l'avoue, le sujet va être peut-être un peu étonnant pour beaucoup de gens, mais je pense qu'il fallait être important de s'y confronter. Parce que le sujet, c'est notre rapport au deuil et à la mort. Oui, on va s'éclater ce soir, hein, il n'y a pas à dire. Mais je vous rassure, la série dont je vais vous parler est franchement marrante. Donc voilà, c'est un de ses bons côtés. Et la série, elle s'appelle Afterlife. Alors, ou comme le diraient nos amis canadiens francophones, la vie après la mort. Sauf que ce n'est pas de l'au-delà dont il va être question, mais plutôt de comment on vit après la mort des autres, et en particulier de ceux qu'on aime. Et encore une fois, le tout va être fait avec beaucoup d'humour. Alors, de quoi ça parle ? Tony est un journaliste plan-plan dans un journal local, qui n'est pas vraiment sérieux le journal, hein, parce que Tony, lui, il l'est pas non plus, mais ça n'a pas une grande importance. Mais il fait du lien, le journal, entre les gens de la ville de Tambury, au Royaume-Uni, donc, hein, comme vous l'aurez compris. Donc lui, Tony, il a la vie tranquille dont il rêvait. Une petite maison, une femme, Lisa, drôle et amoureuse, un chien. Enfin, il avait plutôt, parce que sa femme est morte d'un cancer du sein. Et il est seul, triste et aigri. C'est comme ça qu'on découvre Tony dans le premier épisode. Il en veut à la terre entière et il compte bien faire payer à tout le monde cette injustice. Pourquoi il n'est plus avec Lisa? Fini les filtres et la bienséance, il lâche son fiel sur toutes les personnes qui croisent sur son chemin. Il est acerbe, cynique, parfois grinçant, parfois limite. Sauf que, on est parfois obligé de reconnaître que ceux qu'on croise sur nos chemins, ils finissent par changer nos vies. Voilà. Et c'est tout le sens de la série. Donc, on peut se dire, mais qui a eu l'idée quand même de faire une série pareille? Parce que c'est quand même pas non plus le scénario le plus habile et facile que je connaisse. Eh ben, il s'agit de Ricky Gervais. Et Ricky Gervais, si vous aimez l'humour noir anglais et les bons mots, vous le connaissez. Parce que Ricky Gervais, c'est aussi le gars qui a fait The Office, par exemple. Et c'est aussi le gars qui présente la cérémonie des Oscars tous les ans depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est vraiment un gars, je dirais, c'est le top de l'humour anglais, en fait. Cynique, un peu décalé, toujours sur l'humour noir, et puis parfois avec des non-dits. Et sa série lui ressemble beaucoup, en fait. Hein, donc voilà. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Ricky Gervais, il est aussi scénariste, producteur et réalisateur de la série. Comme ça, il n'est pas embêté.
Ouais, non, je me disais en même temps, avec un thème comme ça et un point de vue qui est le sien, je pense qu'il a bien fait de faire tout lui-même, parce qu'il aurait pas eu beaucoup de soutien, à mon avis.
C'est ça, ouais, parce que la série, elle a un parti pris assez fort. Hein. Elle est à l'image de Gervais lui-même. C'est une série athée. Et alors quand je dis ça, je peux vraiment la classer comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une série faussement athée ou une série où il y aurait des athées. C'est une série écrite, faite et réalisée par un athée, et donc qui est vraiment faite comme telle et avec un point de vue athée. Alors oui, vous ne rêvez pas. On a enfin une série qui vous abordait un thème plutôt pas simple, la mort, par le regard du matérialisme et de l'athéisme. Sacré gageur, hein. Heureusement qu'il y a de l'humour parce que sinon ça pourrait être très vite compliqué. Mais honnêtement, c'est très bien fait et on passe d'excellents moments malgré le fait que on regarde pas quelque chose toujours très drôle. Voilà, du point de vue des thèmes abordés. Et c'est là que la série prend d'ailleurs tout son sens. D'abord, il faut le dire, comme je disais, elle est drôle. Ensuite, il faut voir le type d'humour qu'elle utilise. C'est de l'humour pince sans rire, de l'humour noir, du cynisme. Tout y passe malgré des sujets plutôt lourds dans la série. Et ça, c'est volontaire parce qu'en fait, ce qu'essaye de nous expliquer Ricky Gervais tout au long de sa série, c'est que l'humour, en fait, c'est une des rares armes qu'on a pour supporter la vie. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, avoir de l'humour, accepter l'humour et rire, c'est un des meilleurs moyens quand même pour dépasser nos peines, nos souffrances et nos douleurs. Et ça, c'est vachement bien intéressant. Pardon. Et la relation entre Tony et son chien, à elle toute seule, ça vaut le coup de regarder la série, parce qu'ils ont une espèce de relation tous les deux, qui est très étonnante et très étrange.
Oui, j'ai commencé du coup à regarder cette série. Et c'est vrai que il oubliait un peu de nourrir le chien au départ. Hein, ouais. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que t'en parles, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une mise en abyme du rapport à la vie dans son rapport avec son chien.
Exactement. Ouais, et c'est exactement ça.
Ouais, c'est assez marrant parce qu'il y a aussi ce recul, enfin, finalement, très matérialiste.
Clairement. Et au-delà de ça, en fait, la série, elle va toucher à des sujets qu'on dit universels, mais face auxquels nous sommes souvent bien seuls. C'est le rapport à la perte, au deuil, et surtout quand on est athée. Parce que quand on est athée, c'est pas simple. Parce qu'on peut pas se raccrocher aux portes magiques. On peut pas se dire qu'on va aller revoir l'être aimé dans l'au-delà, qu'elle est à côté, à la droite de Dieu, à nous attendre patiemment. On peut pas se dire non plus qu'elle est plus heureuse ou moins heureuse après la mort, parce que pour nous, on sait, je dis bien nous, parce que je suis athée, on sait qu'en fait, après la mort, y a rien. Et que du coup, on sait que quand on a perdu quelqu'un, on l'a perdu. Et c'est pas si simple en fait, parce que les gens nous disent souvent « Oui, mais les athées, comme vous croyez en rien, c'est facile. » Je suis pas sûr. Et comme ils le démontrent dans la série, c'est pas forcément la position la plus simple. C'est même peut-être la position la plus complexe face à la mort et au deuil. Et c'est très intéressant en fait de voir une série aborder cette thématique-là et le faire de façon assez frontale, parce que non seulement il nous emmène dans son deuil, mais il nous y emmène totalement. C'est-à-dire que il va nous faire suivre sa vie et il va nous tirer vers son deuil, vers son mal-être, vers son cynisme, vers tout ça, vers sa perte d'envie de vivre aussi. Mais il va nous y emmener en nous disant, et toi, tu ferais quoi à ma place, en fait? Toi, là, toi qui es en train de me regarder, de me juger, tu ferais quoi si tu vivais ce que je vivais? Parce que mine de rien, la série, elle s'adresse aussi aux spectateurs. Elle ne parle, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a le rapport aux autres dans la série. Alors, en fait, il est simple, d'être cynique, finalement, et désabusé. C'est facile d'envoyer tout le monde chier, d'être cynique, d'en vouloir à la terre entière, de mépriser tous les autres. C'est simple, oui, mais en fait, ça aide pas à aller mieux. Au contraire même, c'est l'inverse, c'est que ça nous enfonce, ça nous enterre petit à petit, et on s'enterre sous notre propre fiel en réalité. Et ça aussi, il va nous le montrer dans la série, il va nous montrer à quel point ça peut nous couper de notre propre réalité, à nous, et qu'on peut s'enfermer dans quelque chose qui n'est plus la réalité, et qui est juste une sorte de routine dans laquelle on se sent bien, mais où finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Et que ça n'a pas un grand intérêt. Alors, quelle porte de sortie, finalement, à tout ça? Ricky Gervais, il répond par un mot qu'on n'emploie pas souvent, parce qu'il déteste le mot « charité ». Lui, il préfère le mot « empathie ». L'empathie avec les autres, c'est-à-dire le fait de s'intéresser aux autres réellement pour ce qu'ils sont, de les confronter sans les juger, tout en maintenant ses convictions et en les affirmant, de dialoguer, d'échanger, de vivre pour autre chose que soi et son nombril, même si parfois ça fait du bien d'être sur soi et son nombril, mais pas tout le temps, parce que finalement il faut trouver un équilibre avec tout ça. Et en fait, dans la série, il va juste nous parler de tout ça, et puis surtout il va nous rappeler que la charité, c'est vraiment de la merde. Et que la charité, c'est le truc qu'on fait pour acheter une place au paradis. Et que lui, il préfère en fait la gentillesse à la charité, quoi. Parce que finalement, la gentillesse, c'est gratuit. Et il dit, pourquoi finalement utiliser la charité? Alors que c'est quand même très, très pourri comme notion, voilà. Donc en fait, il nous dit, il faut rester un individu à part entière, mais être capable de se détacher quand les autres ont besoin de soi. Voilà. C'est ça, en fait, lui, sa thérapie qu'il applique à son deuil, c'est de rester connecté à la vie, aux gens qui nous entourent, et aux gens qu'on aime, finalement. Parce que comme il le dit et il le fait comprendre dans la série, on n'aime pas qu'une fois, et surtout on aime plein de gens dans notre vie. Pas de la même façon. Il y a les gens dont on est amoureux, il y a les gens qu'on aime parce que c'est des amis, il y a des gens qu'on aime juste parce qu'on les trouve sympas. Et en fait, on aime tout plein de plein de façons différentes. Et c'est de ça dont il va nous parler. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que il va ajouter à ça une couche de, et je reprends les mots de Jonathan, de mise en abîme par rapport aux rapports sociaux et de classe. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que justement, Ricky Gervais, dans toutes ses séries, on se souvient de The Office ou de Derek, où il jouait en fait un acteur cantonné au second rôle. Et il montrait ce que c'était d'être un acteur de second rôle, qui était toujours méprisé par les acteurs de premier plan. Vous voyez? Et donc, il y a toujours, dans l'analyse de Ricky Gervais, il y a toujours cette notion du fait qu'il y a toujours du mépris de classe partout, tout le temps, en réalité, même quand on veut pas en faire. Et dans cette série, en fait, il va le faire, mais il va le faire de façon moins frontale que ce qu'il le faisait d'habitude. Il va le faire plus en nous faisant rencontrer des personnages perdus, ou que la vie a cabossé, ou qui se retrouve là parce que voilà, c'est la vie, que des fois on choisit pas toujours son chemin, mais qui s'en sortent et qui finalement, malgré le fait que la vie elle est pas super sympa, ils ont quand même trouvé des échappatoires. Puis parfois ils en trouvent pas, alors il faut se confronter à des choses très rudes, très dures. Et en fait, c'est tout ça qui va le ramener à la vie, qui va le sortir de son abîme justement pour dire mais attends, en réalité, il y a d'autres façons de vivre qui existent, il y a d'autres gens qui souffrent, il y a pas que moi en réalité. Puis finalement, est-ce que je souffre tant que ça moi avec mon chien dans ma maison? OK, ma femme est plus là, mais j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai un travail, j'ai un chien, je peux aller à la plage. Est-ce que finalement je suis tant à plaindre que ça? C'est toutes ces relations aux gens et aux autres qui vont être bien. Et surtout, c'est fait avec des dialogues géniaux et beaucoup, beaucoup d'humour. Bon, vous l'aurez compris, moi, j'ai été plus qu'emballé par cette série. Afterlife, c'est vraiment pour moi la série qu'il faut voir et avoir vue. Alors, j'ai envie de dire que dans le genre, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres séries, mais dans le genre, c'est vraiment ce que j'ai vu de meilleur. Et moi, je suis athée et matérialiste. Et ça fait un bien fou pour une fois qu'un héros me ressemble. C'est-à-dire que pour une fois, on ne nous sert pas quelqu'un qui va aller chercher sa rédemption dans la méditation transcendantale ou dans une nouvelle forme de religion, ou qui va rencontrer une bonne sœur qui va lui dire ce qu'il doit penser, que d'un seul coup il va dire mais oui, vous avez raison, Dieu m'a rappelé à lui. Non, là on est face à un gars qui est athée et reste athée et qui en fait se démerde avec ça, et c'est plutôt intéressant justement de voir quelqu'un qui s'est interrogé sur comment on se démerde avec tout ça. Voilà, et moi ça m'a fait du bien. Et la série elle sait mettre des coups de poing quand il faut. Et elle sait nous rappeler au réel, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une série comique, mais qui par moments nous ramène quand même dans des réalités assez crues. Et en fait, finalement, il le fait juste pour nous dire, bon ok, ça existe, est-ce qu'on s'arrête de déconner pour autant? Parce qu'après tout, faut quand même dépasser ça, donc on peut quand même rire, on peut quand même faire le pas de côté nécessaire pour survivre. Et puis finalement, est-ce que c'est si grave d'être une prostituée sur un coin de trottoir quand on est nous-mêmes prostituée à un journal qui fait des trucs putassiers? Voilà, genre de question qu'il va vous poser en diagonale dans la série. Alors moi je dis, il faut foncer, parce que si vous aimez rire intelligemment, vous posez des questions, que vous appréciez les séries superbement dialoguées, et qu'en plus vous voulez avoir des choix musicaux à tomber par terre à chaque fin d'épisode, où la musique est choisie pour coller à ce que vous venez de voir, eh ben très franchement, allez-y, courez voir Afterlife. Et juste pour votre information, nous sommes le 24 avril 2020, la saison 2 sort aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de la voir, mais j'ai trop hâte. Voilà, c'était mon petit coup de cœur sur la série Afterlife.
Alors moi, je vais déjà préciser une première chose, c'est que je l'ai vu aussi la série. C'est quand tu dis c'est une série athée, etc. En fait, il faut pas s'attendre à un effacement des religions.
Ah, du tout.
Je veux dire, ce serait mensonger. Enfin, il a pas imaginé un monde athée. C'est
oui,
pas vrai.
Les acteurs ne sont pas tous des athées.
Absolument
quoi.
Pas. Tous les rôles ne sont pas du tout athées.
Il vit dans notre société. Hein.
C'est ça, voilà. Il vit aujourd'hui, et on sait bien que les athées, on n'est quand même pas une majorité à travers le globe. Et c'est hyper intéressant en fait, parce que justement en fait, c'est la confrontation des différentes visions, lui de son point de vue d'athée et d'autres avec qui il peut par exemple travailler, qui vont être plutôt croyants, et ça va être une confrontation comme ça d'idées. Ça va pas partir dans des bagarres, mais par contre, ça va débattre, ça va poser des questions qui font chier. Et c'est hyper intéressant. Et alors après, ça c'est un point de vue moi perso, mais ça m'a vachement ramené à mes propres expériences. C'est effectivement te rendre compte quand tu as été élevé dans un truc croyant, etc., etc. Et que quand t'es gamin et que d'un coup en fait tu te rends compte que non en fait, enfin y a rien, c'est fini en fait. L'histoire elle s'est arrêtée là quand il y a la mort de quelqu'un que t'aimes. Et que ouais en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te reste?
Les souvenirs.
Et c'est ce que j'allais dire. Mmh. Et ben en fait, ce qui nous reste à nous, on va dire, personnes matérialistes, c'est les souvenirs, c'est des images, et vraiment je trouve que c'est hyper intéressant, et justement c'est pas manichéen, hein. C'est hyper intéressant, comme le dialogue qu'il a avec cette femme dans le cimetière, c'est génial, la rencontre, comme tu l'as dit, avec la prostituée, la rencontre.
On raconte pas tout. Non, non, mais pas vu la série.
Oui, c'est vrai, mais il y a des rencontres avec plein de personnages qui ne lui ressemblent pas. Il est pas dans un entre-soi, en fait. Alors que, là, je parle parce qu'on est des fois dans des milieux militants, on évolue souvent dans de l'entre-soi. Ce qui fait qu'on ne se rend même plus compte des différentes manières de penser, et c'est hyper intéressant. Vraiment, moi j'adore aussi. Je crois qu'il y avait Jonathan.
Ben, en fait, ouais, c'est assez marrant parce que c'est tous les deuils, même si c'est d'un point de vue athée, c'est tous les deuils qui sont explorés apparemment dans cette série. C'est toutes les... Et comment on en arrive par un point de vue athée matérialiste à faire un bilan logique, enfin rationnel.
Et en fait, c'est une série aussi qui interroge notre rapport au regret. C'est-à-dire que, justement, quand on est matérialiste, on sait qu'on n'a qu'une seule vie, qu'elle dure pas longtemps, et que donc en fait faut essayer de la remplir quand même de choses qu'on regrette pas. Et comme il le dit, on n'a pas toujours le choix. C'est ce qu'il montre dans la série par ses différents personnages. On n'a pas toujours le choix, mais que finalement, on peut pas blâmer quelqu'un qui va trouver une façon de trouver du plaisir dans ce qu'il vit, parce que le plaisir c'est ce qui nous reste dans la vie en fait. Et que si on enlève le plaisir, en fait on n'a plus de vie en réalité. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, dans sa façon de poser ses personnages et de poser ses histoires, quoi. Voilà.
Moi, je voulais rester.
Attends, je sais pas si Jonathan avait terminé.
Oui, j'avais terminé, mais je voyais que MK voulait parler.
Merci, Jonathan. Je reprends le micro. Non, je voulais réagir, en fait, à ce que tu viens de dire, Fabien, effectivement, par rapport au fait qu'on, pour les personnes athées matérialistes, on réalise effectivement qu'on n'a qu'une seule vie. Et tu disais au début, là, quand tu voulais présenter la série, c'est... Pour les athées, finalement, le deuil, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que moi, je dis toujours par rapport aux religieux, les religieux, ils ont quand même de la chance de croire, parce que finalement, le deuil, il est plus facilement supportable en vrai, parce que ils vont retrouver leur chère personne chère aimée dans l'au-delà. Ils savent qu'ils ont plusieurs vies au final. Qu'il y a donc, et c'est vrai que du coup, cette série que je n'ai pas vue et que j'ai très 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 envie de voir, du coup, il faut que je trouve le temps, mais complètement, c'est dire que par rapport aux religieux, et du coup, est-ce que c'est une série aussi qui critique finalement les religieux, la religion ?
Il est pas dans la critique, il est dans l'affirmation de son point de vue. C'est-à-dire que lui, il est athée et en fait, il a pas envie d'être phagocyté par le religieux. Et en fait, il défend ses points de vue. Alors il est pas. Attention, hein, quand il est dans sa phase très cynique, il les défend. il les défend à la schlag. Hein, il fait pas semblant. Mais en fait. Il estime, et ce que je trouve assez légitime, hein, de sa part, c'est qu'on a le droit aussi de respecter le fait qu'il ne croit pas. C'est-à-dire que tout le monde essaie de lui ramener des solutions qui viennent de leur religion ou de leur croyance. Mmh. Et lui, il dit, mais non, mais en fait, ça me parle pas. Pourquoi est-ce que tu essaies de m'imposer quelque chose, en fait? Et lui n'essaye pas d'imposer l'athéisme. Il questionne la vie. Et en fait, il finit par être acculé par les gens. Et quand il est acculé, il finit par répondre un peu violemment. Mais finalement, quand on regarde comment ça se passe, il démontre bien que c'est pas lui qui attaque en premier. C'est bien les gens qui viennent vers lui avec « Mais t'inquiète pas, tu la reverras dans l'au-delà » ou « Mais t'en fais pas, elle est plus heureuse maintenant ». Et lui, il répond « Mais pourquoi t'étais avec elle quand elle est morte ?» Et voilà, ouais, c'est un truc très, très, il est assez, voilà.
Mais moi, justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il renvoie le croyant ou la croyante face à ses propres interrogations.
Oui, et à leur propre peur aussi.
Et à leur propre peur. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est pas donneur de leçons. Par contre, c'est peut-être s'appuyer des fois sur des failles de la croyance, que c'est toujours c'est ça qui
est... met en branle tout ça, leurs croyants. Et effectivement, et les croyants, je pense que dans leur infime petite pensée, ils doivent se dire, et s'il a raison?
Ah, mais je pense que les croyants autour de lui, je pense que ça leur pose beaucoup de questions.
C'est ça.
Plus que lui est interrogé par les croyances des autres.
C'est ça, oui.
C'est super intéressant, vraiment.
Donc, je vous le conseille, je vous le redis, la série, c'est Afterlife. Vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Et je vous conseille vraiment de la regarder. Eric et Gervais, je t'aime. Voilà, un peu de musique.
Allez, c'est parti. Alors...
Whiskey, whiskey, whiskey.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org, causerie confinée. Mais c'est pas une raison pour ne pas vous présenter le nouvel album d'Ostra. Et oui, parce que Risk It, que vous venez d'entendre, est issu du nouvel album d'Ostra qui sortira le 1er mai. Voilà, un album qui parle des relations toxiques. Donc voilà, tout un programme. J'adore Ostra et voilà. Et on va continuer cette causerie avec la lecture d'un texte que Clara voulait partager avec nous.
Tout à fait. Alors, pendant cette période difficile, les regards et les soutiens sont tournés vers les soignants qui se démènent pour soigner, sauver les personnes hospitalisées à cause du coronavirus. Malgré les conditions déplorables pour le faire, le manque de moyens, les nerfs sont mis à rude épreuve, l'épuisement n'est pas loin. Nous avons eu durant les deux dernières causeries le témoignage de Delphine qui travaille en EHPAD. J'avais également relayé le témoignage d'Alexandra, infirmière en réanimation à Mâcon, réquisitionnée sur Paris. Mais il y a également d'autres corps de métier qui sont sollicités et qui font que la vie continue malgré tout et qui rendent le confinement supportable dans le sens où nous ne subissons pas les privations d'une guerre. Je pense notamment aux éboueurs, aux chauffeurs-livreurs, aux pharmaciens, aux salariés dans l'alimentation. J'en oublie certainement, mais ce soir, je voulais lire le témoignage de l'une de ces personnes. Un témoignage intitulé « À la caisse, malgré le Covid-19 ». Après 10 jours d'arrêt pour cause de dos fragile, me voilà de retour au travail, le 24 mars, soit une semaine après la déclaration de confinement. Évidemment, avant d'y retourner, une multitude d'émotions, d'idées passent par la tête. Continuer mon arrêt, quitte à simuler, peur de choper le Covid, peur de le refiler à mes clients et clientes les plus âgés, les plus fragiles. Retourner au taf parce que les gens, toi, moi, avons besoin de bouffer et donc d'acheter de quoi faire. Oui, je suis vendeur de fruits et légumes dans un petit magasin de quartier qui fait partie d'une chaîne régionale avec un bon patron de merde, violent, etc. Mais là n'est pas le sujet. Donc de la bouffe, il en faut. Alors je décide de retourner au taf avec à l'esprit que s'il manque des dispositions de sécurité sanitaire, je ne ferai pas long feu. Il est clairement hors de question que je me sacrifie pour la nation, la grandeur de la France, les bénéfices de mon patron. À ma grande surprise, des choses ont été faites. Limitation à 5 clients en même temps dans le magasin, masques chirurgicaux, même si leur utilité est minime, mais peut-être pas à minimiser. Gants, gel hydroalcoolique, tracés tous les 1 mètre près de la caisse. Malgré cela, je décide de tracer tout le magasin. Les clients ont aussi droit d'avoir des repères et pas que moi et ma sécurité. J'établis aussi physiquement un périmètre d'1 mètre autour de la caisse. Quelques jours plus tard, sera aussi fixée une paroi en plexiglas devant la caisse. Alors super, tout va bien. Malheureusement, non. Quand mon taf est d'être proche des gens, de les accompagner dans les rayons, de causer avec eux, d'avoir un vrai rapport de proximité avec eux, faut pas se mentir, tous ces dispositifs, bien que sécuritaires, amènent inconsciemment des sentiments de peur. Tout cela est anxiogène. Et ça tape sur mon système, sans même que je m'en rende compte. Ajoutez à cela le boulot, la charge de taf, en plus, et me v'la servi. Quid des bénéfices des grandes enseignes? Quid des bénéfices des petites chaînes régionales? Ah oui, parce que s'il y a des perdants, des précarisés par ce virus, d'autres, des patrons, se gavent. Et pendant ce temps-là, moi, dans mon fort intérieur, je flippe. Une part d'irrationnel, c'est certain, mais quand même, c'est un fait. Ai-je mis assez de distance? Ai-je bien désinfecté mes mains? Et quand je vais fumer ma clope sortie de ma poche, n'est-elle pas infectée? Et le masque, vu que chirurgical, il ne me protège pas. Pour autant, je peux protéger les autres. Oui, mais je n'ai aucun symptôme. Oui, mais je peux être asymptomatique et filer le virus en rendant la monnaie. En tendant les sacs, avec les aliments dedans. Et puis, voir des dizaines de clients gantés, masqués dans un commerce de proximité, on ne peut pas dire que ce soit apaisant. Et vas-y que j'essaie moi aussi de rassurer les gens. Je tente de mettre de la raison, parler de la distance avec les gens, leur rappeler de laver tous leurs fruits et légumes en rentrant chez eux. Et dans tout cela, il y a aussi les clients et les clientes qui me remercient d'être là. Et qui me disent de faire attention à moi. Oui. Il y a aussi de la bienveillance que je pense sincère. Et puis, il y a ceux et celles qui me disent, après leur avoir dit qu'on se retrouve avec une charge de travail de dingue, mais au moins, il y a du boulot, c'est positif pour vous. Et je me sens obligée de leur rappeler que c'est mon patron qui va s'en mettre plein les poches, que si on fait 2,5 fois les chiffres d'affaires quotidiens hors épidémie, on les fait avec le même effectif. Et que donc, s'il y en a bien un qui se gave, c'est mon patron. Bref, le salariat en temps de crise ou non, c'est toujours pareil. Il y a ceux et celles qui se tuent à la tâche et il y a le patronat. Il y a les donneurs d'ordre et les exécutants. Il y a ceux qui se font remplir les poches et ceux et celles qui les remplissent, qui les leur remplissent. Et c'est signé Jean-Yves du groupe Graines d'Anna Lyon.
Ben merci pour cette lecture.
Ben merci.
De rien.
Ben, un point de vue différent effectivement que les EHPAD et les hôpitaux quoi. Ouais, en fait, on s'en rend bien compte. Enfin, et puis il faut pas oublier. Enfin, il y a déjà des caissières, je crois. Il y a aussi déjà des agents de sécurité qui sont déjà morts du Covid, etc. C'est que là, encore une fois, malheureusement, c'est que sûrement tout n'a pas été fait encore une fois pour les exploiter, quoi.
Et surtout pour les protéger.
Ah oui, non, mais enfin, pour ceux qui sont exploités, rien qui est fait, quoi. C'est ça. Et ben, merci. De toute façon, l'idée, c'est que, enfin, ce que t'avais proposé, Clara, c'est qu'on essaierait de temps en temps, enfin, t'essaieras de temps en temps lire des témoignages, effectivement, de celles et ceux qui sont à la tâche sur leur lieu de travail ou qui, des fois, peuvent aussi bosser depuis chez eux. Alors, ils taffent depuis chez eux, mais ils taffent quand même. Donc, je pense que, ouais, effectivement, cette période, elle nous apporte aussi plein de
nouvelles formes d'exploitation.
Oui. Oui.
Eh ben, on va se quitter. C'est la fin de cette émission qui était fort sympathique, n'est-ce pas?
Mais bien sûr.
Alors, Clara, peut-être tu seras pas là la semaine prochaine, mais on pensera très fort à toi.
C'est gentil, merci.
Voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On va se quitter avec un titre qui est...
Oui.
Alors, qui est My Silver Lining du groupe First Aid Kit.
Voilà. On se fait des bisous. Enfin, on vous fait des bisous aussi.
Oui, et on se fait des bisous entre nous aussi, parce qu'on s'aime vous, mais de loin, parce qu'on est confinés.
C'est ça, à distance.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bon courage.
Des bisous.
Salut tout le monde. Bisous. Salut.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Comes with the bad. A song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Take
I try to keep on keeping on. I try to keep on keeping on.